Alors, il y a des expressions qui contiennent le verbe juger. Alors, moi je ne juge pas. Il ne faut pas juger. Ou alors, il y a des gens, au contraire, qui sont toujours en train de juger les autres. Pas ici, certainement, à Annecy. Mais bon, parfois, il arrive dans certains milieux, ou surtout quand on est chrétien, qu'on est converti, on a peut-être tendance à examiner la vie des autres avec un œil critique. Bon. Je crois qu'on a tous été peut-être, on est peut-être tous tombés dans ce travers. Moi, ça m'est arrivé quelquefois. Mais nous allons voir avec quelques versets de la Bible, de l'Écriture, qu'il y a des cas où nous ne devons pas juger. Et d'autres cas où nous devons juger. Donc j'ai essayé de diviser cela en deux parties. J'espère que je ne serai pas complexe. J'espère que vous allez comprendre facilement. Si vous ne comprenez pas, levez la main et dites-le, n'est-ce pas? Je vous expliquerai. Alors, premièrement, les versets qui disent que nous ne devons pas juger. Alors, je vous citerai Jacques, chapitre 4, versets 11 et 12. « Ne parlez pas mal les uns des autres, frères. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, tu en es juge. Un seul est législateur et juge, celui qui peut sauver et perdre. » Mais toi, qui es-tu qui juge le prochain? Alors là, c'est clair. Dieu ne veut pas que nous soyons des juges. Vous savez, les chrétiens, parfois, ils se prennent pour des juges d'instruction, ils se prennent pour des commissaires enquêteurs, et ils ont vite fait de critiquer, etc. Je me souviens d'un frère, que Dieu le bénisse, mais quand la réunion était finie, que je devais prêcher, que j'avais prêché, alors il faisait des commentaires. Ah, aujourd'hui, c'était bien ce que tu as dit, je suis d'accord. Par contre, aujourd'hui, non, tu as dit ça, là, je ne suis pas trop d'accord. Bon. Alors, que Dieu le bénisse, n'est-ce pas? Mais bon, parfois, c'est nécessaire hein, que quelqu'un vous fasse des commentaires. Mais en tout cas, c'est peut-être trop facile que de juger les autres. Ne pas juger, c'est un ordre du Seigneur. Romains 14, 13. Ne nous jugeons donc pas les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement. Il y a ce verset, « Ne nous jugeons pas les uns des autres », il y a pratiquement le même dans Romains 14, 4, « Toi, qui es-tu qui juge un serviteur d'autrui ?» C'est vrai que quand on est juge, eh bien, c'est une grande responsabilité. Dernièrement, j'ai vu un programme télévisé qui m'a intéressé. C'était un reportage sur une jeune femme juge. C'est rare, une jeune femme, vraiment jeune, une juge. Alors j'écoutais un peu ce qu'elle disait, et alors il y avait des prévenus qui étaient là pour des accidents graves, pour des abus d'alcool, pour des violences, enfin voilà. Et cette femme, elle écoutait, elle parlait, et même elle donnait des conseils. Oserais-je dire qu'elle faisait de la morale? Non, parce que c'est un mot, il ne faut pas le dire ça aujourd'hui, hein. Il ne faut pas parler de morale. Mais elle disait, et je me dis, mais Seigneur, ce serait bien qu'il y ait des chrétiens qui deviennent juges. Tiens, parmi nous, peut-être il y a peut-être des jeunes qui sont intéressés. Je ne sais pas si vous avez les possibilités de le faire, mais c'est pas mal. Parce que, bien sûr, c'est selon la loi des hommes. Mais cette femme juge, je ne sais pas quelle était sa religion, s'il en avait une, mais elle donnait des conseils à ses prévenus, vraiment, qui m'ont touché. Donc, en tout cas, nous ne devons pas être des juges dans ce sens que, vraiment, par rapport à la parole de Dieu, il y a beaucoup de choses que nous ne savons pas, nous ignorons. Parfois, nous avons des frères qui viennent, ou des sœurs qui viennent aux réunions, ils s'endorment. C'est peut-être pas ici, j'espère, non, mais bon, ils s'endorment, ils sont fatigués. Alors, on les regarde de travers, il n'est pas spirituel, qu'est-ce qu'il fait? Il dort à l'église, etc., etc. Mais quand j'ai commencé dans le ministère, je commençais à Valence, pour rien vous cacher, j'ai commencé avec Claude Luce, ceux qui le connaissent. Et Claude, il m'a dit, bon, allez, il faut qu'on travaille. On était en train de faire une nouvelle église. Et avec lui, on tamisait le sable. Vous savez ce que c'est, tamiser le sable? Oh, c'est merveilleux. Hein. Et avec la pelle, on faisait le ciment, etc. Et on était fatigués. Et le soir, à la réunion, on se regardait tous les deux. Et on disait, quand même, il y a des frères qui sont fatigués le soir à la réunion, mais on comprend pourquoi. Vous voyez, quand on n'a jamais fait ça, ce que vous voulez, on ne sait pas. Alors, on peut critiquer facilement. Donc, je pense que vous n'êtes pas de cette catégorie et donc je n'ai pas prolongé l'explication. Donc, nous ne devons. Et si nous jugeons trop facilement les autres, un jour nous serons nous-mêmes jugés. Et je me souviens de quelqu'un que je connaissais bien. Et il avait un peu un caractère comme ça. Il était toujours en train de critiquer les autres. Et je lui ai dit, un jour, je lui ai dit, écoute, toi, on te mesurera avec la mesure dont tu t'es servi. Et un jour, tu feras cette expérience. Je ne croyais pas si bien dire, parce que malheureusement, ça s'est mal passé pour lui. Et il a été il a connu des temps difficiles. Je ne veux pas aller plus loin. Donc, nous ne devons pas juger afin que nous ne soyons pas jugés. On vous jugera dans le jugement dont vous jugez et on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Et puis il y a une autre raison aussi, qui est celle-ci. Nous avons des opinions différentes. Il y a des gens qui pensent que nous, les chrétiens, on pense tous pareil. Les pasteurs pensent tous pareil, les anciens pensent tous pareil, etc. On est tous... C'est pas si simple que ça. Nous ne sommes pas des machines. Et je crois que Dieu respecte notre personnalité. Nous avons une personnalité. Dieu la respecte. Et il veut certainement nous faire beaucoup de bien. Regardez l'épître aux Romains, au chapitre 14. N'est-ce pas ? Voilà, et vers 2. Il n'ira pas plus loin. Alors, verset premier. Faites accueil à celui qui est faible dans la foi. Ne discutez pas sur les opinions. Tel croit pouvoir manger de tout, tel autre qui est faible ne mange que des légumes. Ah, c'est l'histoire des viandes sacrifiées aux idoles. Il y avait des convictions. Bon, les chrétiens ne pouvaient pas acheter de la viande comme ça. Ils achetaient toujours des viandes qui avaient été sacrifiées aux idoles. Donc, il y a des chrétiens qui disaient, il ne faut pas manger de cette viande-là. D'autres disaient, mais non, une idole, c'est rien du tout. On peut manger ce qu'on veut, etc. Mange de tout ce qui se vend sur le marché. Donc, il y avait des opinions, des discussions. Il peut y avoir parfois, dans certains points, des discussions. Je ne suis pas un relativiste en disant qu'il faut faire dire à la Bible ce qu'elle dit. Non, non, ce qu'elle ne dit pas. Et répéter les choses machinalement, pas du tout. Mais je dis que nous pouvons avoir des opinions différentes et nous avons besoin de nous respecter. J'ai connu des cas où un couple a eu la triste information que si on laissait l'enfant vivre, il serait anormal d'une manière très grave. C'est terrible. Qu'est-ce qu'il faut dire à un couple comme ça? Qu'est-ce qu'il faut dire? Allez, faites avorter, n'est-ce pas? Ce qu'on vous a dit, faites avorter, etc. Ou bien, non, 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 surtout pas, etc. Je crois, moi, je préfère ne rien dire. Priez pour des cas comme cela. Parce qu'il y a des cas où des enfants anormaux sont venus au monde et ils étaient impeccables. Et d'autres fois où ça a été un drame terrible. Il y a des églises, je connais des cas vraiment difficiles, difficiles. Seigneur, mais comment fait cette femme pour s'occuper d'un enfant comme ça? Il y a des cas vraiment très difficiles, très douloureux. Et là, je crois que nous devons respecter les opinions des uns ou des autres. Donc, je dirais, ne jugeons pas, ne soyons pas des juges. Maintenant, il faut équilibrer, parce que dans la parole de Dieu, il y a beaucoup d'équilibre. Vous l'avez sans doute remarqué. C'est pour ça que les pasteurs invitent des visiteurs, comme aujourd'hui, comme Alain Ray la prochaine fois, etc. Ils ont raison. Nous ne sommes pas en train d'écouter tout le temps, les mêmes. Nous avons, par la grâce de Dieu, des visiteurs. Nous avons même des livres qui paraissent. Vous voyez un peu l'allusion, n'est-ce pas? Et oui, parce que je crois que peut-être sur un livre, vous allez trouver que quelqu'un d'autre a écrit quelque chose d'un peu plus pertinent. C'est bien, c'est bien. Je crois que nous devons ainsi juger. Alors, nous devons juger. 1 Corinthiens 2, 15. L'homme spirituel juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Oh là là, frère, je suis spirituel, moi. Moi, je veux juger de tout. Et je veux n'être jugé par personne. C'est bien. Il faut voir les autres quand même. Hein. Mais en tout cas, ce qui est vrai, c'est que l'homme spirituel juge de tout. Et on va voir en quoi cela consiste. Un autre verset, dans le même ordre, 1 Corinthiens 14, 20. Frères, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement, mais pour la malice, soyez enfants. Et à l'égard du jugement, soyez des hommes faits, des adultes. Donc, un adulte, qu'est-ce qui caractérise un adulte? C'est qu'il juge, il discerne. Il ne va pas toucher le feu, le radiateur qui est très chaud, parce qu'il sait qu'il va se brûler. N'est-ce pas? Un de nos enfants, une fois, s'était renversé, je crois, de la soupe bouillante, je crois. Parce qu'elle voulait faire comme les grands. Voyez. Et croyez-moi qu'après, elle a fait attention. Hein. Et bon, ça ne s'est pas trop mal fini quand même. Mais c'est pour dire que nous devons être des adultes sous le rapport du jugement. La charité croit tout. Elle a la foi. L'amour croit tout. Nous sommes, c'est un signe de maturité spirituelle et d'être spirituel. Il y a un verset que nous lisons souvent lors de la Sainte-Cène. Il y a un passage bien connu, 1 Corinthiens 10 et 11. Peut-être qu'on pourrait le lire cela, 1 Corinthiens 10, 15. Voilà. Je parle comme à des hommes intelligents. Jugez vous-même de ce que je dis. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Et puis, un peu plus loin, c'est au chapitre 11, verset 27, texte qui explique bien le geste que nous faisons lors du repas du Seigneur. 1 Corinthiens 11, 27, voilà, c'est là. Celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun d'entre eux s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Il y a un jugement. Que chacun s'éprouve soi-même. La Sainte-Cène, c'est une table de jugement, mais de jugement pour notre part, pour ce qui nous concerne. Nous ne sommes pas en train de juger les autres en disant « Est-ce que la sœur un tel va prendre la Sainte-Cène ce matin ?» Avec ce qu'elle a fait, hein, ce qu'elle m'a dit. Voyons un peu, je vais regarder un peu. Non, que Dieu nous garde cela, c'est Dieu qui juge. Mais que chacun s'éprouve soi-même. Chacun se juge lui-même. Non pas pour devenir des malades, parce qu'il y a des gens qui sont malades. Il y a un frère, on s'est battu à plusieurs pour ça, parce qu'il était toujours en train de culpabiliser. Il vous disait le moindre parole, des fois même une parole agréable, aimable, et puis après il venait vous voir, oh, pardonnez-moi parce que je vous ai dit ça, oh, je suis coupable, j'ai péché. Oh, il m'a arrêté. On ne savait plus comment faire pour l'arrêter. Vous voyez? Mais, en dehors de ce cas, qui est un cas maladif, je pense que nous devons nous examiner nous-mêmes, nous tenir devant le Seigneur et nous approcher de Dieu. Par exemple, pour la Sainte-Cène, mais pas seulement. Pour l'onction d'huile, par exemple, l'imposition des mains. Quoi, actuellement, avec le Covid, ça ne s'est pas trop pratiqué, mais ça va revenir. De manière générale, lorsque nous demandons la prière, je crois que nous nous examinons nous-mêmes. Lorsque j'étais un tout jeune stagiaire dans une certaine église, on m'a demandé d'aller prier pour une sœur. Et moi, je ne connaissais pas, je ne connaissais personne, j'arrivais. Et puis il y a un frère ancien qui vient avec moi, on était tous les deux, le petit jeune et le vieux. On va prier. Alors on commence par prier. Et lui, il a dit quelque chose. Il a dit, sœur, est-ce que vous avez pardonné à telle personne? Alors la sœur dit, celle-là, jamais, jamais je lui pardonnerai. Alors le frère dit, je ne prierai pas pour vous. Et j'étais un peu surpris par cette conversation un peu triste. Mais voyez-vous, au lieu de se juger elle-même, elle jugeait les autres. Peut-être qu'elle avait été victime, c'est vrai, d'une parole désagréable, c'est possible. Mais je pense que nous devons être prudents et nous devons nous examiner nous-mêmes. La Sainte-Cène, c'est une table d'examen, en dehors d'autres vertus. Il y a toute une étude à faire sur la Sainte-Cène. Faites-la, lisez quelques bons livres et vous en serez certainement fortifiés. ne restons pas des enfants qui en sont au lait spirituel, qui se plaignent les uns des autres, ou qui suivent des modes. Nous ne suivons pas des modes. Nous ne faisons pas comme tous les autres font, parce que c'est bien, mais nous le faisons par conviction. Et nous le faisons en nous laissant conduire vraiment par le Seigneur. Il y a un autre domaine où nous avons besoin de juger. Nous ne nous laissons pas entraîner, Hébreux 13, 9, ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères. Examinez toute chose. Ce qu'on vous enseigne là, est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est réel? Vous savez, il y a toutes sortes de modes aujourd'hui, toutes sortes de nouvelles philosophies, je dirais, de nouvelles doctrines qui sont là. Et parfois, nous les chrétiens, nous manquons de sagesse, nous manquons de discernement. Comme j'ai entendu, n'est-ce pas, des tenants de l'église maison. C'est plus la peine de se réunir. D'abord, il y a le Covid, n'est-ce pas? Et puis, bon, on préfère rester à quelques-uns entre nous parce que, voilà, nous sommes là. Mais ça, c'est une doctrine qui n'est pas d'aplomb, qui n'est pas conforme à ce que nous enseigne la parole de Dieu. Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères. Il y a toutes sortes d'enseignements qui sont là, qui circulent, toutes sortes de bouquins, parce que s'il y a de bons livres, il y en a de moins bons, croyez-moi. Hein. Et nous avons donc besoin vraiment de nous laisser conduire et inspirer, et d'écouter toutes sortes de prédicateurs qui sont connus, qui sont dans la communion fraternelle, la communion spirituelle. Un jour, dans une certaine église, il y avait un monsieur qui est venu, un frère, qui est venu, je ne connaissais pas du tout. Ce n'était pas un pasteur, il avait une profession libérale. Alors nous l'avons accueilli, bien sûr, nous l'avons salué. Et puis après, nous avons appris qu'il cherchait des adresses et qu'il allait chez les gens pour leur enseigner la vérité pure, la vérité absolue. Apparemment, ce qu'il entendait, ce n'était pas tout à fait ça. Alors, il voulait apporter son enseignement à lui. Nous avons essayé de le convaincre avec le frère qui travaillait avec moi. Nous sommes allés le visiter. Oh, il a été très aimable. Mais il avait ses convictions. C'était la doctrine à lui. C'était l'évangile selon saint, je pense. Et donc, bon, ben, nous avons eu la douleur de nous séparer de lui. Comme on dit. Et à la fin de la conversation, il a dit: bon, je vois que nous ne sommes pas d'accord, mais quand même, nous allons terminer par la prière, frère. Et nous, on a dit non, on ne prie pas avec vous, on n'est pas d'accord. Que Dieu vous bénisse. Alors, je ne l'ai plus revu, je ne sais pas ce qu'il est devenu. Pourtant, c'est un homme instruit, un homme qu'on peut supposer intelligent. Il y a aussi d'autres domaines où nous avons besoin de ne pas de juger. Bien interpréter un événement. C'est facile d'interpréter comme ça. Alors, telle personne, ça lui est arrivé ça, voilà la raison. Ding, boum, parfois, on peut avoir raison, mais parfois, on peut se tromper. Bien interpréter un événement. Un jour, Jésus a parlé à un pharisien qui s'appelait Simon. Simon, on connaît plutôt Pierre, mais ce n'était pas Pierre, c'était un autre. Il s'appelait Simon. Et comme une femme était venue, elle avait pleuré aux pieds du Seigneur, etc. Jésus raconte à cet homme religieux une parabole. Et c'est dans Luc 7, 42 et 43 que vous avez trouvé l'histoire de cet homme qui avait des créanciers, des débiteurs, pardon. Non, c'était des débiteurs pour lui. On lui devait de l'argent. Voilà, on lui devait de l'argent. Il y en avait un qui devait, on va dire, 5 000 euros. Et l'autre, il devait 50 euros. Et puis, cet homme qui était bon leur a remis à tous les deux la dette. 50 euros, tu ne me dois plus rien. 500 euros, tu ne me dois plus rien. 1 000 euros, je ne sais pas combien, tu ne m'as plus rien. Bon. Et Jésus a dit, lequel l'aimera le plus? Si je vous pose la question, même des gens qui ne sont jamais entrés ici, ils vont tous comprendre que c'est celui qui a eu le plus gros cadeau. celui à qui on a fait le plus gros cadeau. Et le texte littéral, c'est ceci. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous deux leur dette. Lequel l'aimera le plus ? Simon répondit, celui, je pense, auquel il a le plus remis. Voyez que ce que nous pensons est important. Et Dieu voit ce que nous pensons. Il apprécie, il comprend, il discerne ce que nous pensons. Et cet homme a dit, je pense, moi, le pharisien. Pourtant, les pharisiens ne n'ont pas dit que des choses bien au temps de Jésus. Jésus, souvent, leur a même fait des reproches. Bon. Mais là, cet homme, il a dit, je pense, c'est celui auquel je pense, il a le plus remis. Et Jésus lui dit, qu'est-ce qu'il lui dit ? Tu as bien jugé. Donc, vous voyez, on peut être pharisien et bien jugé. On peut être pasteur et bien jugé. On peut être membre d'une église et bien jugé. On peut être un jeune chrétien et bien jugé. On peut être un vieux et bien jugé. Donc, le Seigneur apprécie. Il voit, il pèse, il sous-pèse. Je crois que nous sommes appelés à bien juger. Et il y a des cas où nous avons des circonstances qui sont là, des gens qui vivent quelque chose, qui ont des fardeaux que nous ne connaissons pas, eh bien, nous jugeons ce qui est bien et ce qui ne l'est pas. Alors, bien interpréter un événement. Ne nous trompons pas. Je pense que c'est celui auquel il a le plus remis. Et puis, il y a aussi autre chose. J'ose à peine en parler parce que c'est un peu plus délicat, peut-être, mais vous apprécierez vous-même, vous ferez votre propre opinion. Alors, c'est 1 Corinthiens, chapitre 5. Verset 12. Qu'ai-je ? Non, je me suis trompé. C'est 1 Corinthiens 14, 29. Je suis allé trop vite. 1 Corinthiens 14, 29. Alors voici ce qu'il dit, j'y suis. Pour ce qui est des prophètes, que deux ou trois parlent et que les autres jugent. Si un autre qui est assis a une révélation, que le premier se taise. Comment faut-il interpréter ce texte ? Que deux ou trois prophètes parlent et que les autres jugent. Il ne s'agit pas ici de devenir des membres d'un tribunal qui condamnent l'un, etc. Non. Mais je pense que la manifestation spirituelle doit être jugée. Vous voyez ? Ce n'est pas parce que quelqu'un a reçu un miracle extraordinaire que forcément il a toujours raison. Vous voyez ? Et on a besoin d'avoir ce discernement et de juger, car le miracle seul n'est pas suffisant. Il faut le miracle avec la parole de Dieu, avec, n'est-ce pas, les révélations du Seigneur. Que les autres jugent. Je suis prudent en disant cela, mais quand même, j'entends parfois dans nos églises des paroles prophétiques un peu fortes. Par exemple, ainsi parle l'Éternel. Moi, l'Éternel, je vous dis ceci. Moi, l'Éternel, je vous dis cela. Et moi, je dis que ce n'est pas Dieu. Parce que Dieu, si c'est Dieu qui a parlé, je ne peux pas juger. Si la personne dit, moi, l'Éternel, je vous dis ça, je ne peux pas juger. Pas possible. Par contre, si la personne dit, parle de la part, si elle est le porte-parole, alors là, oui, c'est vrai. Comme cette parole que nous avons entendue une fois dans une réunion, il y a un jeune qui voulait partir loin de sa famille, c'était un nouveau converti, loin de sa famille, loin de l'église, parce qu'il avait trouvé du boulot ailleurs. Et le pasteur lui dit, écoute, tu es jeune, converti, tu es faible dans la foi, tu vas partir loin parce que tu veux gagner de l'argent, je crois que c'est pas bon, il faudrait mieux que tu restes par ici, etc. Et puis, bon, la conversation s'arrête là, le culte commence. Parole prophétique. Tu veux partir loin parce que tu penses gagner beaucoup d'argent. Mais ce n'est pas une bonne solution. En fait, C'était la réponse de Dieu, mais on était émerveillés de voir ce que Dieu est capable de faire. Je crois que Dieu est capable de parler aujourd'hui encore, béni soit le Seigneur. Donc, que les autres jugent. Et là, on a dit, ça c'est vraiment une parole de Dieu. Voyez. Donc, quand il est dit que les autres jugent, ce n'est pas le coup de nous mettre à faire des commentaires. Surtout, soyons très prudents quand même. Voyez, soyons prudents. Mais malgré tout, si nous entendons une parole qui n'est pas en conformité avec la parole de Dieu, qui a raison? Est-ce que c'est le prophète qui a raison ou c'est la parole de Dieu? C'est la parole de Dieu qui a raison. Des fois, nous qui présidons les réunions, nous avons des moments de flottement un peu, on est un peu en difficulté. Un jour, j'entends une sœur qui prophétise et qui nous parle de David, le fils de Salomon. Alors, là, il y a un petit problème. Qu'est-ce que je fais? Je dis rien, et ça va faire sourire certains, ils ne croiront plus aux prophéties. Alors, j'ai dit, écoutez, nous remercions le Seigneur, parce que c'est vraiment une parole de Dieu, mais quand même, il y a une petite erreur, c'est que c'est le contraire. C'est Salomon qui est le fils de David. Cette sœur qui était vraiment une chrétienne impeccable, hein, elle était bien. Elle était bouleversée, elle est venue me demander pardon, etc. Mais je lui dis, sœur, vous savez, les paroles prophétiques, c'est comme une salade. Enlevez les feuilles à l'extérieur qui ne sont pas en bon état, gardez le cœur. Parce que si nous prenons tout, nous risquons peut-être d'avaler quelque chose qui n'est pas bon. Nous avons besoin de discernement et de prendre. Retenez les prophéties, retenez ce qui est bon. Il y a un texte qui dit ça, je n'ai pas la référence. Là. Retenez ce qui est bon dans les paroles prophétiques. Et nous bénissons Dieu pour les bonnes paroles qui sont apportées et qui sont entendues dans nos églises et qui le sont, je crois, dans la vôtre. Je pense que j'ai terminé un tout petit dernier, une dernière pensée. Alors, il faut que je prenne mon petit texte ici, 1 Corinthiens 5, versets 12 et 13. Merci de votre patience. Corinthiens 5, 12. Voilà. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez le méchant du milieu de vous. Ah, il faut reconnaître, c'est quand même dur. Hein. Bon, si je tombe sur un verset comme ça, pris au hasard, à pile ou face, et que je suis obligé de parler, c'est pas facile à commenter ce verset. Mais quand même, il y a là quelque chose d'intéressant. Qu'ai-je à juger ceux du dehors? On ne peut pas juger ceux du dehors, sinon on passera son temps. On n'ira plus chez le boulanger parce que c'est un menteur, on n'ira plus chez le charcutier parce que c'est un adultère, etc., etc. On ne fera plus rien. Bon. Mais dans l'Église, je crois que nous ne pouvons pas tout accepter. Je crois franchement que nous ne pouvons pas, nous avons besoin de reprendre peut-être quelqu'un qui n'a pas une vie conforme à la parole de Dieu. Je me souviens d'un couple un peu âgé, très sympathique, très fidèle du reste. Et bon, ils étaient divorcés, il me semble, tous les deux. Et puis ils ont connu le Seigneur, ou veuf, divorcé. Ouais, voilà. Bon. Et puis un beau jour, on a appris qu'ils vivaient ensemble. Alors quand même, je lui dis, bon, le mariage, c'est quand même... Il y a une différence, je vous apprends rien, non? Il y a une différence entre le mariage et le concubinage, c'est pas pareil. Même Jésus a dit à la Samaritaine, tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Donc Jésus faisait bien la différence entre les deux, et nous aussi. Alors je suis allé voir, avec le stagiaire qui était avec moi, on est allé voir ce couple, et alors ils m'ont dit, mais à l'âge qu'on a, on passe... aller déranger encore le maire et tout, c'est pas assez. Nous, on est là, on est vieux, on n'a pas pour longtemps à vivre, ne nous embêtez pas avec ces choses-là. Mais j'ai dit, je respecte absolument, je ne suis pas en train de vous critiquer, enfin, pas du tout. Je suis même content que vous ayez trouvé la consolation l'un avec l'autre. Mais mariez-vous. Parce que les jeunes, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dire, mais les vieux, ils sont comme ça, nous aussi. Donc, montrez l'exemple. Et alors là, ils ont compris. Et ils se sont mariés, on était très heureux de les voir se marier. Non, vous voyez, il y a là des circonstances. Je crois qu'il y a des cas où nous devons juger. Ceux du dedans, c'est ceux du dedans que nous avons à juger. Et même, il est dit, nous jugerons les anges. C'est beau, ça, hein? Tout à l'heure, j'ai appris qu'il y avait un ange par ici. Non, que Dieu nous bénisse. Et prions. Oh, que jamais nous n'ayons à exercer la discipline comme cela. Mais parfois, la discipline, c'est bien. Il faut de la discipline. Il faut que... Parce que sinon, on ne sait pas où on va. S'il n'y a pas de règles, s'il n'y a pas de barrières, comment voulez-vous... Si, mettez une passerelle sur un précipice. Personne ne va oser y aller. Mais mettez deux rambardes, comment on les met ça, deux poignées, n'est-ce pas? Là, ben, ça sera plus facile déjà. On se sent en sécurité. Pourtant, c'est pareil finalement. C'est le même précipice, le même vide. Mais il y en a un où on a un point d'appui et l'autre où on n'en a pas. Que Dieu nous aide à avoir des points d'appui parce que dans notre vie chrétienne, dans notre vie spirituelle, c'est souvent utile. Et que Dieu bénisse votre Église. Seigneur, merci de bénir chacun et chacune d'entre nous. Te prions de nous aider, Seigneur, et de bénir ton peuple, de bénir les pasteurs, les responsables, les frères, les sœurs qui ont quelque responsabilité que ce soit. Donne-leur, Seigneur, ta sagesse, ta force de faire des progrès avec toi. Bénis ton Église. Nous ne voulons pas être des juges qui condamnent les autres, mais nous voulons les aimer, nous voulons les aider. Et nous te disons merci, Seigneur, et gloire à toi. Amen.